Mon Dieu !
Todd faillit hurler. Il était à la porte de la cuisine, d'où Sander était affalé, sa précieuse tasse entre ses coudes. Son front était constellé de grosses gouttes de sueur. Mais Todd ne les voyait pas. Il voyait le sang. Il y avait du sang partout, semblait-il. Des mares de sang sur la table, sur la chaise vide, sur le sol.
« Où êtes-vous blessé ?»
cria Todd, réussissant à décoller ses pieds paralysés. Il avait l'impression d'être resté au moins 1000 ans devant cette porte.
« C'est la fin, » pensa-t-il. « C'est vraiment absolument la fin de tout. Le ballon s'envole très haut, baby. S'envole jusqu'au ciel, baby. À petit peton patapon, au revoir. »
Tout de même, il évita soigneusement de marcher dans les flaques.
« Je croyais que vous aviez dit que vous aviez une putain de crise cardiaque. »
« Ce n'est pas mon sang, » marmonna Doug Sander.
« Quoi ?»
Todd se figea.
« Que dites-vous ?»«
Va en bas, tu verras ce qu'il faut faire. »«
Bon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici ?»
Une idée terrible lui passa soudain par la tête.
« Ne nous fais pas perdre de temps, gamin. Je ne pense pas que tu seras tellement surpris de ce que tu trouveras en bas. » « Je crois que tu as déjà l'expérience de ce qui t'attend dans la cave. Une expérience personnelle. »
Todd le regarda encore un moment, incrédule, puis descendit deux par deux l'escalier de la cave. Au premier regard, à la faible lueur jaune de l'unique ampoule, il crut que Doug Sander avait jeté là un sac d'ordures. Ensuite, il vit les jambes qui dépassaient et les mains crasseuses maintenues le long du corps par la ceinture serrée à bloc.
« Mon Dieu !»
répéta-t-il, mais cette fois les mots n'avaient plus aucune force. Il n'en restait que le squelette, un murmure exsangue. Il appuya sa paume contre ses lèvres, des lèvres sèches comme du papier de verre, ferma un instant les yeux. Quand il les rouvrit, il avait enfin repris le contrôle de lui-même. Todd avança. Il vit le manche de la bêche dépasser d'un trou peu profond dans un coin. Et comprit aussitôt ce que Doug Sander était en train de faire quand son palpitant s'était coincé. Aussitôt, il devint conscient de l'odeur fétide qui régnait dans la cave, une odeur de tomates pourries. Il avait déjà senti cette odeur, mais elle était beaucoup moins forte au rez-de-chaussée. Et puis, cela faisait 2 ans qu'il ne venait plus guère. Maintenant, il comprenait exactement le sens de cette odeur, et il dut lutter quelques instants pour retenir sa nausée, laissant échapper quelques sons étouffés, étranglés, derrière la main qu'il pressait contre sa bouche et son nez. Peu à peu, il se ressaisit. Il prit le clochard par les jambes et le traîna jusqu'au bord du trou. Laissa retomber les jambes, essuya la sueur de son front avec la paume de sa main gauche et resta parfaitement immobile quelques instants, réfléchissant comme il n'avait jamais réfléchi de sa vie. Puis il s'empara de la bêche et se mit à creuser. Quand le trou atteignit 1,50 m, il ressortit et y poussa du pied le corps du vagabond. Debout, au bord de la tombe, Todd contempla le cadavre. Des jeans en lambeaux, des mains sales, couvertes de croûte. Une belle cloche, c'était sûr. Ironique au point d'être risible. Si drôle qu'on pourrait hurler de rire. Il remonta l'escalier en courant.
« Comment ça va ? »
demanda-t-il à Doug Sander.
« Ça ira. Tu as fait ce qu'il fallait. »«
Je suis en train, ok ?»«
Dépêche-toi. Il reste la cuisine. »«
J'aimerais bien vous donner à bouffer au cochon, »
dit Todd, qui redescendait les marches avant que Doug Sander puisse répondre. Il avait presque entièrement recouvert l'ivrogne avant de se dire que quelque chose n'allait pas. Il examina la tombe, tenant d'une main le manche de la bêche. Les jambes dépassaient en partie de la terre. Les pieds aussi. Une vieille chaussure, probablement une hush puppy, et une chaussette sale qui avait pu être blanche quand Taft était président.
Une hush puppy? Une seule?
Todd contourna la chaudière, courut jusqu'au pied de l'escalier, fouillant la cave des yeux. La migraine commençait à marteler ses tempes comme des clous émoussés. Il aperçut la chaussure un peu plus loin, à l'envers, dans l'ombre de quelques vieilles planches. Todd s'en empara, retourna en courant la jeter dans le trou et se remit à pelleter. Il recouvrit les chaussures, les jambes et tout le reste. Une fois la terre entièrement remise dans le trou, il la tassa à grands coups de pelle, prit le râteau et le passa de long en large pour masquer le fait qu'elle avait été récemment retournée. Sans grand effet. Sans un bon camouflage, un trou fraîchement creusé puis comblé ressemble toujours à un trou fraîchement creusé puis comblé. Mais personne n'aurait l'occasion de visiter la cave, n'est-ce pas? D'où Sander et lui devraient bien se contenter de cet espoir. Todd remonta en courant. Il commençait à s'essouffler. Les coudes du vieil homme s'étaient écartés au point que sa tête pendait sur la table. Il avait les yeux fermés, les paupières pourpres et luisantes, comme des fleurs vénéneuses.
« D'où Sander ?»
cria Todd. Il sentait une espèce de goût chaud dans sa bouche, un goût de peur mêlé d'adrénaline et de sang chaud, violent.
« Ne va pas me crever dans les bras, vieille pute !»«
Ne parle pas si fort !»
dit le vieil homme sans ouvrir les yeux.
« Tu vas rameuter tous les gens du voisinage. »«
Où est le détergent ? Du Lestoil ou du Top Job ? N'importe quoi. Et des chiffons. Il me faut des chiffons. » »«
Tout est sous l'évier. »
Le sang était presque entièrement coagulé. D'où Sander leva la tête et regarda Todd ramper sur le linoléum. Frotter d'abord les flaques, puis les coulures sur les pieds de la chaise où le clochard s'était assis. Le garçon se mordait les lèvres compulsivement, presque au point de les arracher, comme un cheval avec son mort. Tout fut enfin nettoyé. L'odeur âcre du détergent remplissait la pièce.
« Il y a un carton de vieux chiffon sous l'escalier, »
lui indiqua D'où Sander.
« Mais ceux qui sont pleins de sang au fond, n'oublie pas de te laver les mains. »
« J'ai pas besoin de vos conseils. C'est vous qui m'avez mis là-dedans. »«
Vraiment, je dois dire que tu y as bien pris racine. »
Son ancien ton moqueur lui revint un instant, puis une grimace de souffrance lui déforma le visage.
« Dépêche-toi. »
Todd s'occupa des chiffons, puis remonta une dernière fois les marches en courant. Se retourna, regarda vers le bas, l'air nerveux, éteignit la lumière et referma la porte. Il alla vers l'évier, remonta ses manches et se lava les mains avec l'eau la plus chaude possible. Plongea les mains dans la mousse et en ressortit le couteau de boucher employé par D'où Sander.
« J'aimerais vous couper la gorge avec, »
dit Todd d'un air sombre.
« Oui, et ensuite me donner à bouffer au cochon, je n'en doute pas. »
Todd rinça le couteau, l'essuya et le rangea. Il fit très vite le reste de la vaisselle, vida l'évier et le rinça. En s'essuyant les mains, il regarda le réveil. Il était 10h20. Il alla jusqu'au téléphone, souleva le combiné et le regarda d'un air pensif. L'idée qu'il avait oublié quelque chose d'aussi compromettant que la chaussure du clochard, le harcelait de façon désagréable. Quoi ? Il n'en savait rien. Sans sa migraine, il trouverait, peut-être. Foutue saleté de migraine. Oublier quelque chose, cela ne lui ressemblait pas, et cela lui faisait peur. Il composa le 222. Une voix répondit à la première sonnerie.
« Ici le centre médical de Santo Donato, vous avez un problème ?»«
Je m'appelle Todd Bowden. Je suis au 963 Claremont Street. J'ai besoin d'une ambulance. »«
Quel est le problème, mon gars ?»«
C'est pour mon ami, Monsieur Dou. »
Il se mordit la lèvre si fort que le sang jaillit. Et pendant un instant, il se sentit complètement perdu, submergé par la douleur qui battait dans son crâne. D'où Sander. Il avait presque livré le vrai nom du vieil homme à cette voix anonyme.
Du calme, mon gars. Va doucement et tout ira bien.
Mon ami, Monsieur Denker. Je crois qu'il a eu une crise cardiaque.
Ses symptômes ?
Todd commença à les décrire, mais la voix l'arrêta dès qu'il lui parlait d'une douleur à la poitrine s'étendant au bras gauche. Elle lui dit qu'une ambulance arriverait d'ici 10 à 20 minutes, selon la circulation. Todd raccrocha et appuya de nouveau ses paumes sur ses yeux.
« Tu les as eus ?»
demanda D'où Sander d'une voix faible.
« Oui !»
hurla Todd.
« Oui, je les ai eus. Oui, bon Dieu, oui. Oui, 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 fermez-la, c'est tout !»
Il pressa ses mains encore plus fort sur ses yeux, faisant d'abord jaillir des éclairs insensés, puis un soleil rouge et brûlant.
« Ressaisis-toi, Todd Baby. Redescends dans tes pompes. Sois cool. Pige un peu. »
Il ouvrit les yeux et reprit le téléphone. C'était le plus dur. C'était le moment d'appeler chez lui.
« Allô ?»
La voix douce et cultivée de Monica dans son oreille. Un instant, juste un instant, il se vit écraser le canon de la 30-30 contre le nez de sa mère et appuyer sur la gâchette au premier saignement.
« C'est Todd, maman. Passe-moi papa, vite. »
Il ne l'appelait plus jamais maman. Il savait qu'elle comprendrait ce signal plus vite que n'importe qui. Ce qui arriva.
« Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose ne va pas? Toddy ?»«
Passe-le-moi, c'est tout. »
« Mais qu'est-ce que... »
Le téléphone cogna, cracha. Il entendit la voix de Monica s'adressant à son père. Todd était prêt.
« Todd, quel est le problème ?»«
C'est Monsieur Denker, papa. Il... C'est une crise cardiaque, je crois. J'en suis presque sûr. »
« Seigneur !»
La voix de son père s'éloigna momentanément, et Todd l'entendit répercuter l'information à sa femme. Puis il fut de retour.
« Il est encore vivant, pour autant que tu puisses le dire ?»«
Il est vivant, conscient. »«
Très bien, Dieu merci. Appelle une ambulance. »«
Je viens de le faire. »«
222 ?»«
Oui. »«
Brave garçon. Il va très mal, d'après toi ?»«
Pas assez mal, putain. Je ne sais pas, papa. » Ils ont dit que l'ambulance arriverait bientôt, mais j'ai un peu la trouille. Est-ce que tu peux venir l'attendre avec moi?
Sans problème. Donne-moi 4 minutes.
Todd entendit sa mère ajouter quelque chose, mais son père coupa la communication. Todd, de son côté, raccrocha.
4 minutes.
4 minutes pour faire ce qui n'avait pas été fait. 4 minutes pour se souvenir de ce qui avait pu être oublié. Avait-il oublié quelque chose? Ce n'était peut-être que ses nerfs. Ciel, comme il aurait voulu n'avoir pas eu à prévenir son père. Mais c'était ce qu'il y avait de plus naturel, non? Y avait-il encore quelque chose de naturel qu'il n'avait pas fait? Comme...
« Oh, pauvre merdeux !»
gémit-il soudain en se précipitant dans la cuisine. Doucendeur avait la tête posée sur la table, les yeux mi-clos, engourdis.
« Doucendeur !»
cria Todd. Il secoua brutalement le vieil homme, qui gémit.
« Réveillez-vous! Réveillez-vous, vieux pourri de merde !»«
Quoi? C'est l'ambulance ?»«
La lettre! Mon père vient ici, il est presque déjà là. Où est cette putain de lettre ?»«
Quelle lettre ?»«
Vous m'avez dit de leur dire que vous aviez reçu une lettre importante. J'ai dit... »
Son courage s'effondra.
« J'ai dit qu'elle venait de l'étranger, d'Allemagne.
Mon Dieu !»
Todd se passa la main dans les cheveux.
« Une lettre ?»
Doucendeur, péniblement, lentement, releva la tête. Ses joues ravinées étaient d'un jaune maladif, ses lèvres bleues.
« De Willy, c'est ça que je dirais. Willy Frankel, cher Willy. »
Todd regarda sa montre et vit que 2 minutes s'étaient déjà écoulées depuis qu'il l'avait raccroché. Son père n'arriverait pas chez Doucendeur en 4 minutes, impossible. Mais il allait foutrement vite avec sa Porsche. Vite, c'était ça. Tout allait trop vite. Et il y avait encore quelque chose qui n'allait pas dans la maison. Il le sentait. Mais pas le temps de s'arrêter pour trouver ce qui clochait.
Oui, ok, je vous l'ai lu. Vous vous êtes excité et vous avez eu cette crise. Bon, où est-elle?
Doucendeur le regarda d'un œil vide.
La lettre, où est-elle?
Quelle lettre?
Demanda le vieux d'une voix absente. Et Todd eut l'envie folle d'étrangler ce monstre sénile.
Celle que je vous ai lue, celle de Willy, je ne sais qui. Où est-elle?
Tous deux fixèrent la table, comme si la lettre allait se matérialiser sous leurs yeux.
En haut, dit finalement Doucendeur. Regarde dans la commode, le 3e tiroir. Il y a une petite boîte en bois au fond du tiroir. Tu devras la forcer. J'ai perdu la clé il y a longtemps. Ce sont de très vieilles lettres d'un ami à moi. Aucune n'est signée. Elles sont toutes en allemand. Une page ou deux nous serviront de façade, comme vous dites. Si tu te dépêches,
vous êtes cinglé.
Todd était en rage.
Je ne sais pas l'allemand. Comment j'aurais pu vous lire une lettre écrite en allemand, pauvre taré?
Pourquoi Willy m'écrirait-il en anglais?
Riposta Doucendeur d'une voix lasse.
Si tu me lisais une lettre en allemand, tu ne comprendrais pas, mais moi, si. Bien sûr, ton accent serait un vrai massacre, mais pourtant je pourrais.
Doucendeur avait raison, une fois de plus, et Todd n'attendit pas d'entendre la suite. Même après une crise cardiaque, le vieux avait un métro d'avance. Todd enfila le couloir en courant, s'arrêtant devant la porte le temps de vérifier que la Porsche de son père n'était pas en train de se garer. Non, mais sa montre lui apprit que c'était de justesse. Cela faisait déjà 5 minutes. Il monta l'escalier 4 à 4 et fit irruption dans la chambre du vieux. Il n'y était encore jamais monté, n'avait même pas eu cette curiosité, et il dut explorer d'un regard affolé ce territoire inconnu. Il découvrit la commode, un machin bon marché style Monoprix 1972, comme disait son père. Tomba sur ses genoux et tira un grand coup sur le 3e tiroir, lequel se coinça à mi-course, en biais, et se bloqua définitivement.
« Saloperie !»
chuchota-t-il, pâle comme un mort, à l'exception de 2 taches rouges sombres sur les joues et de ses yeux bleus aussi foncés qu'une tempête sur l'Atlantique.
« Saloperie de putain de truc ! Sors de là !»
Il tira si fort que la commode bascula et faillit lui tomber dessus avant de se remettre en place. Le tiroir jaillit comme une balle et tomba sur ses genoux, répandant le linge du vieillard, ses chaussettes et ses mouchoirs. Todd fouilla ce qui restait dans le tiroir et trouva une boîte en bois d'environ 20 cm de long. Il voulut soulever le couvercle. Impossible. Fermé à clé, comme avait dit Doug Sander. Rien n'était gratuit ce soir. Il remit à la va-vite le linge dans le tiroir qu'il enfonça brutalement à sa place. Le tiroir se bloqua. Todd le secoua dans tous les sens pour s'efforcer de le décoincer. Son visage était couvert de sueur. Le tiroir finit par se fermer d'un coup. Todd se releva, la boîte à la main. Combien de temps avait-il fallu? Le lit de Doug Sander avait des colonnes aux 4 coins. Todd écrasa la serrure de la boîte sur l'une d'elles, de toutes ses forces, grimaçant quand la douleur du choc remonta jusque dans ses coudes. Il regarda la serrure. Un peu éraflée, mais intacte. Il cogna une seconde fois, encore plus fort, sans penser à la douleur. Cette fois, le choc arracha un éclat de bois à la colonne. Mais la serrure tint bon. Todd eut un petit hurlement de rire, alla à l'autre bout du lit, leva la boîte au-dessus de sa tête et cogna de toutes ses forces. La serrure se fendit. En ouvrant le couvercle, il vit des phares éclabousser la fenêtre de la chambre. Todd, frénétique, fouilla la boîte. Des cartes postales, un médaillon, une photo souvent pliée d'une femme vêtue d'un porte-jartel en dentelle et rien d'autre. Un vieux porte-billet, plusieurs pièces d'identité différentes, un étui à passeport vide, en cuir. Au fond, des lettres. Les phares se rapprochaient. Todd pouvait reconnaître le bruit caractéristique du moteur de la Porsche. Le bruit augmenta, s'arrêta. Todd attrapa 3 feuilles de papier avion couvertes des 2 côtés d'une écriture serrée, en allemand, et ressortit en courant. Arrivé en haut de l'escalier, il prit conscience qu'il avait laissé la boîte ouverte au pied du lit. Il retourna dans la chambre, ramassa la boîte, et rouvrit le 3e tiroir, lequel se bloqua une fois de plus avec un grincement de bois torturé. Todd entendit devant la maison un frein à main cliqueter, une portière s'ouvrir, puis claquer. Comme de très loin, il s'entendit gémir. Il posa la boîte dans le tiroir coincé en biais, se releva et lui donna un grand coup de pied. Le tiroir se ferma impeccablement. Todd le regarda un instant, clignant des yeux. Puis se précipita dans le couloir et descendit l'escalier en courant. À mi-hauteur, il entendit le crissement rapide des pas de son père dans l'allée. Todd sauta par-dessus la rampe, retomba souplement et fonça dans la cuisine, faisant vibrer les feuilles de papier qu'il tenait à la main. Des coups martelant la porte.
« Todd ? Todd, c'est moi !»
Et il entendait aussi la sirène d'une ambulance au loin. Doug Sander s'était replongé dans sa stupeur.
« J'arrive, papa !»
cria Todd. Il posa la lettre sur la table, dispersant un peu les feuilles comme si on les avait laissées tomber à la hâte, puis alla jusqu'à la porte d'entrée pour ouvrir à son père.
« Où est-il ? »
demanda Dick Bowden en passant devant lui.
« Dans la cuisine. »
« Tu as fait exactement ce qu'il fallait, Todd, » dit son père qui le serra rudement, maladroitement, dans ses bras.
« J'espère seulement que j'ai pensé à tout, »
dit Todd d'un ton modeste, et il suivit son père dans la cuisine. Dans leur hâte à évacuer Doug Sander, la lettre fut presque oubliée. Le père de Todd y jeta un rapide coup d'œil et la reposa quand les infirmiers entrèrent avec la civière. Ils suivirent l'ambulance tous les deux et le médecin qui prit Doug Sander en charge accepta les explications de Todd sans poser de questions. Après tout, M. Denker, pour ses 80 ans, n'avait pas de très bonnes habitudes. D'un ton brusque, le médecin le félicita de sa rapidité et de sa présence d'esprit. Todd le remercia faiblement et demanda à son père s'il pouvait rentrer chez eux. Sur le chemin du retour, Dick lui répéta combien il était fier de lui. Todd l'entendit à peine. Il repensait à sa 30-30.